Dieu a un plan. Dieu a des œuvres. Dieu a commencé une œuvre et Dieu l'achèvera. Il ne peut pas la terminer. S'il ne la termine pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alors bon, là, on est dans un autre registre. Nous allons ouvrir avec beaucoup de cœur le Saint-Livre. Vous aimez ouvrir le Saint-Livre ? Tout ce qui est écrit est intelligent et utile. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, c'est le grand jour, le dernier jour de la fête des tabernacles. Le Seigneur Jésus va basculer tout ce qui est religieux. C'était une fête biblique, mais qui était devenue religieuse. Et le Seigneur va indiquer ce qu'est la véritable fête, le grand jour. Ça peut faire allusion également au fait que dans les derniers jours, il y aura un retour de la grâce divine dans l'Église. Jean chapitre 7, verset 37. Toute la Bible, nous l'avons entendu ce matin au travers des chants, au travers de la prophétie, au travers de la Sainte Cène, toute la Bible nous parle d'un fleuve, de la Genèse à l'Apocalypse, qui traverse. C'est le fleuve de Dieu, comme nous l'avons chanté. Jean 7, verset 37. Je vous demande de bien écouter, vous qui avez une... Peut-être, je suis maladroit, je sais, mais vous qui avez peut-être une conversion boiteuse, il vous faut bien comprendre ce que je vais dire. Parce que nous n'osons pas le dire, parce que nous avons peur de perdre des gens. Il y a des chrétiens qui sont mal convertis. Ça vous choque peut-être, mais le fruit vous l'a prouvé déjà. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Amen. Nous allons dans l'Évangile de Matthieu, la conclusion du sermon sur la montagne que je nous encourage à tous à relire et à méditer. Vraiment, frères et sœurs. Vous savez, dans le sermon sur la montagne, il y a des paroles qui peuvent bénir un homme. Je pense à ce texte, quand Jésus dit par exemple, « Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient, d'où ça vient ? Du malin. » Voyez, rien que ce verset montre à quelqu'un s'il est véritablement dans ce que nous allons lire maintenant dans Matthieu 7, 21. Nous allons faire pendant les dimanches qui vont suivre, soit moi, soit les pasteurs de l'Église, soit les évêques justement, nous allons faire plusieurs enseignements, bien sûr nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, mais sur ce qu'est vraiment la véritable Église. Donc c'est, la fameuse conclusion du sermon. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous gardons ce passage et nous allons dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, reprendre la même chose, présentée d'une manière différente, mais c'est exactement la même chose. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Je vous donnerai d'autres versets qui complètent cet enseignement tout à l'heure pour vous montrer que Dieu n'attend pas des paroles. Dieu attend des actes. Ce serait peut-être la trame de ma prédication de ce matin. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole. Vous voyez, rien que ça. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, eh bien celui-là, il sera heureux. Dans son activité, le dernier don spirituel nous rappelait que la parole est comme un miroir. Vous écoutez les dons spirituels ? Un miroir dans lequel nous nous voyons. Mais bien sûr, un miroir, il y a deux façons de se regarder dans un miroir. Les garçons, à l'adolescence, passent 30 secondes devant un miroir. Les jeunes filles, à l'adolescence, passent 1h30 devant un miroir. Pas vous, mais parce que vous n'êtes plus une adolescente. Mes frères et sœurs, nous allons vivre des moments solennels, je vous assure, mes frères et sœurs. Lorsque nous avons pensé devoir faire des choses qui sont conformes à la parole, et nous, bien sûr que nous nous sommes mis, avec les pasteurs, avec les anciens, avec d'autres frères dans le mouvement, à parler de la réforme. La réforme a eu lieu sous Calvin, et en particulier sous Luther, lorsqu'ils ont voulu sortir du catholicisme. Et ils ont ramené les gens à l'écriture pour que dans toute la France et en Europe, les chrétiens aient une Bible dans la maison. Beaucoup sont morts pour cela. Donc nous allons parler de la réforme. Mais par exemple, pour certains d'entre vous, la réforme, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors j'ai pris le dictionnaire. Vous savez, moi je suis très simple. Je n'ai pas fait d'études, je me tiens à genoux. Je n'ai pas fait d'études. Réforme. Il y a trois définitions, mais j'en ai pris deux. Changement de caractère profond, apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant à améliorer le fonctionnement. C'est la troisième, et je vous donne la seconde. Il y en a plusieurs, mais je vous donne la dernière. Retour d'un ordre religieux à l'observation de ses règles primitives. La réforme, c'est revenir à l'obéissance à la parole. Dans le pays, nous sommes à Saint-Agne, et c'est vrai, comme le disait Jérôme tout à l'heure, depuis des décennies, cette église a eu le devoir de protéger l'assemblée des dérives. Nous l'avons fait consciencieusement, sachant que nous en rendrons compte à Dieu. Mais dans le pays de France, vous savez, il y a des milliers de gens, des milliers, plus, qui écoutent les sermons d'ici. Un pasteur me disait hier, Monsieur Gaud, dans une église, il y a une centaine de chrétiens qui sont partis, qui ne vont plus nulle part. Ils attendent. Ils attendent. Vous savez ce qu'ils attendent, les chrétiens qui ne vont plus dans les églises ? Ils attendent une réforme. C'est très délicat à évoquer. Mais dans ce pays, et pas qu'en France, des milliers de gens attendent que le peuple de Dieu soit le peuple de Dieu. Les véritables chrétiens, qui sont-ils ? De telles dénominations ? De tels organismes religieux ? On pourrait en parler. Et je sais par contre, que dans toutes les dénominations, dans toutes les églises, il y a de véritables chrétiens, partout. Il y a des vainqueurs, partout. Mais les véritables chrétiens, il faut commencer par le début. Je vous assure, j'en ai honte, parce que je sais aussi que les pasteurs sont responsables de cette légèreté. Les véritables chrétiens, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, qui sont ce que la Bible appelle nés de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut passer par la repentance. C'est quoi la repentance ? La repentance est un mot grec, qui signifie métanoïa, qui veut dire changement de mentalité. Je parle souvent de la conversion, mais déjà quand même, une véritable repentance produit un changement de mentalité, un changement de cœur. Si vous êtes entré dans le royaume de Dieu juste pour adhérer à une nouvelle doctrine qui vous correspondait mieux, tiens, dans cette dénomination, il n'y a pas ceci, ou il n'y a pas cela, ou il y a ceci en plus. On n'est pas dans la comparaison des dénominations. Tout ça, ça peut se faire d'une manière saine. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que Dieu veut des pierres vivantes. L'Église, La véritable Église, celle dont Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », est composée de pierres vivantes, dont il faut que tous les chrétiens puissent vérifier leur appartenance à Dieu. Vous vous rappelez dans la parabole du festin des noces? Vous vous rappelez? C'est une grande parabole, on explique tous ces gens qui s'excusent de ne pas accepter l'invitation, et après le maître est irrité, il va dans tous les chemins, il dit « Invitez tout le monde, méchant et bon, invitez tout le monde !» Et la salle est pleine de convives. Nous, dans l'évangélisation, on articule sur le fait que tous les gens s'excusent et ne veulent pas de l'invitation, parce que les gens qui ne se convertissent pas, c'est vrai, n'ont pas compris quelle était l'invitation. Mais la conclusion de cette parabole, c'est qu'on se retrouve au ciel et il y a le maître qui demande à un invité « Mais comment cela se fait-il que tu n'as pas revêtu la robe de vêtements blancs ?» C'est quelqu'un qui avait accepté l'invitation, mais qui n'avait pas accepté la condition. Et il y a des gens qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu avec leur religion. Vous ne serez pas sauvés avec votre religion, serait-elle la meilleure s'il y en a une? Vous serez sauvés en vous revêtant de Christ, de Jésus-Christ. Et on a dit, ah, bien sûr, c'est une parabole. Personne ne va se retrouver au paradis en disant, tiens, qu'est-ce que je fais ici? J'avais pas accepté. Non, ne vous inquiétez pas. Mais Jésus a dit à cet homme, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements d'œufs. Il avait accepté l'invitation, mais il n'avait pas accepté de passer par la repentance, ce qui fait que nous sommes lavés. Et dans les églises de France, partout, des multitudes de chrétiens ont changé d'aquarium, c'est tout. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, et encore moins comme Seigneur. Ils n'ont pas accepté cette repentance. La Bible dit « Produisez du fruit digne de la repentance ». Un chrétien, un vrai chrétien, ce n'est pas un protestant, un catholique, un évêque. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé des ténèbres à la lumière. Vous savez, on a interviewé quelqu'un il n'y a pas longtemps, et quelqu'un qui avait un grand poste dans une église. Et on lui dit, quand vous vous êtes converti, qu'est-ce qui a changé? Un pasteur. Et il a dit, rien. La seule chose, c'est qu'avant, je n'allais pas à l'église, et que maintenant, je vais à l'église. Moi, j'aurais aimé être là, voyez. Moi, je crois que quand on se repent, je trouve qu'il y a quand même un tout petit changement. Quand on a le diable pour père et que le Seigneur Jésus nous introduit dans le royaume de la lumière et qu'il devient lui notre père avec tout ce que ça provoque, moi, il me semble que ça provoque quand même un changement. Et quand quelqu'un dit « Non, ça n'a rien changé », et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas changé, parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance, ils ont exprimé des regrets, mais Jésus n'a jamais dit « regrettez le mal que vous avez fait ». Il n'a pas dit ça. Jésus a dit « repentez-vous et convertissez-vous ». Et des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. La repentance, c'est sérieux. La foi est nécessaire pour obtenir le salut. Quelqu'un me disait « mais comment vraiment on est sauvé ?» Par grâce cette semaine, vous voyez quelqu'un. Est-ce qu'on est sauvé par grâce ou est-ce qu'on est sauvé par la foi? Voilà. Ça, c'est des questions de personnes nouvelles, mais c'est une bonne question. Eh bien, s'il n'y a que la foi, ça va être dur d'être sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce, la part de Dieu, par le moyen de la foi, la part de l'homme. Et la conjonction des deux provoque le salut. On n'est pas sauvé par la grâce, on n'est pas sauvé par la foi. Il faut la grâce qui est la part de Dieu, 99%, et la petite part de l'homme, la foi, qui fait que la conjonction produit le salut et nous entraîne dans les œuvres de Dieu. Mais la foi, elle doit être accompagnée de repentance. La foi sans la repentance, c'est de la religion. C'est pour ça qu'on a au milieu de nous, quand je dis au milieu de nous, c'est dans le royaume de Dieu, plein de gens qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas passés par la repentance. Ils mentaient. Ils mentent toujours. Ils savent que ce n'est pas bien parce que leur conscience a été un petit peu aiguisée, mais pas trop. Mais vous savez, quand la conscience est aiguisée, laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas 3 mois pour savoir si ce que l'on fait ou ce que l'on a dit est mauvais. Vous savez un couteau. Vous avez déjà coupé un steak qui n'était peut-être pas trop tendre avec un couteau qui ne taillait pas beaucoup. Vous savez le temps qu'il faut pour couper. Et vous avez vu quand vous coupez avec un couteau qui est super aiguisé, La conscience, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais à trancher, parce que leur conscience est émoussée. La repentance, c'est pour les pécheurs, bien sûr, pour qu'ils soient convaincus de péché. Après être convaincus de péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 4 ou 5 ans de ça, dans l'église, un soir, un mardi soir, il y a un monsieur, un jeune homme, des Antilles, qui a vraiment été touché par la grâce de Dieu. Alors il m'attendait, je voyais qu'il était grave, il avait un aspect grave, il était sérieux, je voyais. Et il m'appelle avec sa copine, une chrétienne avec laquelle il vivait. Et lui, il a été tourmenté parce qu'elle se disait chrétienne, mais ils couchaient ensemble, etc. Enfin, vous voyez, des chrétiens. Et lui, il me dit, « Monsieur Gault, priez pour moi, pour que je me convertisse. » Alors je lui ai dit non. Alors il m'a dit, « Mais comment ça ?»« Non, je ne prierai pas pour vous. Convertissez-vous. » Il me regarde, « Mais comment ? Convertissez-vous. Mais quand ? Quand vous voulez. Je peux le faire maintenant ? Mais oui. Vous voulez qu'on aille à côté prier ? Oui. » On s'est recueillis. J'ai prié. Il s'est mis à prier. Il a pleuré. Il a dit, « Seigneur, je te donne mon cœur. » Il a prié vraiment de tout son cœur, convaincu de péché. Il relève la tête, on dit « Amen ». Il relève la tête et il dit à sa copine, « On ne couchera plus ensemble, on va mettre notre vie en règle avec Dieu. » Jusqu'à notre mariage. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs ? Bien sûr qu'on peut dire aux gens, il faut prier pour que les gens se convertissent. C'est sûr. Mais dans la Bible, le Seigneur, il ne dit pas, je vais prier pour que vous vous convertissiez. Le Seigneur, il dit, convertissez-vous. Et si vous êtes pécheur, si vous n'êtes pas encore sauvé, ne dites pas prier pour que je passe. Non, convertissez-vous. Vous pouvez vous convertir. N'importe qui, ce matin, peut se convertir et dire, c'est vrai, je veux accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Je vous parle comme ça, parce que nous sommes dans un monde tellement sentimental, tellement émotionnel, que ce sont ces sentiments qui ont pris le dessus sur la vérité de la parole de Dieu. Le problème, c'est que dans nos églises, dans les églises, les gens vivent de regrets, c'est-à-dire qu'ils regrettent, ils savent que ce n'est pas bien. Bien sûr, c'est évident, quelqu'un qui vit dans le péché, il sait très bien, même s'il n'est pas converti, puisque est-ce que les païens ont une conscience ? Eh bien sûr, nous avons une conscience, certains l'ont perdue. Des chrétiens peuvent la perdre. Est-ce qu'un chrétien peut perdre la conscience ? Est-ce que c'est écrit ? Oui, et moi je n'ai pas envie de la perdre, je vous le dis. Beaucoup de gens banalisent le péché. Mais il y a plein de chrétiens qui disent, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne. Mais je pense vraiment que quand on pense que Dieu est trop bon pour que nous puissions, qu'il passe sur tout, je crois que c'est un autre Dieu que vous avez. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Je ne voudrais pas parler de trop de sujets et de doctrines, mais mes frères et sœurs, quand la vie spirituelle est superficielle, quand notre vie spirituelle ne se situe qu'au niveau des émotions, des sentiments, vous savez, du comportement charnel, en plus la chair, c'est clair, dans la Bible, la chair, ça sert à quoi ? À rien. Donc il faut que nous sachions si oui ou non nous avons attristé le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y a des comportements qui éteignent l'Esprit ? Vous savez, je disais il y a quelque temps de cela, un responsable, quelqu'un de très haut placé, je disais la seule chose, et je pèse mes mots, et je vous assure que je suis sérieux parce que je sais que je rendrai compte à Dieu pour toutes mes prédications. Et si je fais allusion à certaines choses, c'est pour que nous comprenions tous bien que le sujet qui nous préoccupe est extrêmement sérieux. Je disais à quelqu'un dernièrement, la seule chose que nous avons réussi à faire, c'est à mettre le Seigneur dehors. Est-ce que ce que je dis est biblique ? Eh oui, c'est biblique. Qu'est-ce que Jésus dit dans l'église de la Odyssée ? Pour pas trop grave en plus, pour de la tiédeur. Pour de la tiédeur. On n'est pas dans l'iniquité et les péchés grossiers, tout ce que vous voudrez. On est dans la tiédeur. Jésus dit, tu ne sais pas. Donc on peut ne pas savoir dans quel état on est. Et c'est là que nous devons prier, vous devez prier pour nous. Est-ce que vous priez pour les pasteurs ? Est-ce que vous priez pour les frères qui interviennent ? Est-ce que vous allez prier pour Olivier et pour Francesca ? Est-ce que vous priez pour Monsieur de Dieu, pour Jérôme, pour Michael ? Et tous ceux qui ont la charge d'apporter la parole. Mes frères et sœurs, c'est un combat spirituel.
et nous pouvons ne pas savoir où nous en sommes. Tu ne sais pas. Quand on éteint l'esprit, Samson, il a flirté avec le don qu'il avait reçu. Vous savez, on ne s'amuse pas avec ce que Dieu nous a donné. Je pense qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se détendre, etc. C'est chouette. Mais mes frères et sœurs, s'il y a bien un domaine dans lequel on ne devrait pas s'amuser, c'est avec la parole de Dieu. Et surtout avec les dons que Dieu nous a donnés. Et Samson, il avait reçu, énormément reçu, et il s'est amusé à flirter avec son don. À s'amuser avec son don. Et quand les choses ont vraiment empiré, il est écrit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mes frères et sœurs, nous qui sommes là sous le regard de Dieu, votre devoir, c'est de dire, mais est-ce où j'en suis dans ma communion avec Dieu? Les fruits, normalement, les fruits devraient être clairs. Si nous ne portons pas de fruits, ou si le fruit est amer. Moi, j'ai planté un pommier chez moi, à côté de mon garage, pour remplacer, et je savais que ça irait pas. Je l'ai fait pour qu'il y ait un arbre. Je l'ai mis pour qu'il y ait un arbre. Alors, il est joli. Mais dès que les fruits poussent, ils sont amers. Pourquoi? Parce que je savais que quand ils ont fait les travaux, ils ont tout balancé, vous savez, les produits, machin, antigel et tout, ils ont tout mis à côté de la maison. Ça fait que la terre, elle est souillée vraiment de produits chimiques. Alors ça pousse, parce que je sais ce qu'il faut faire, je sais comment il faut arroser le gazon. Mais les fruits n'arrivent pas. Et normalement, mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Parce que Jésus a dit que ceux qui portaient du fruit, c'est ceux qui écoutaient avec un cœur honnête. Nous devons avoir mais vraiment c'est le minimum, puisque la Bible est un miroir, de pouvoir nous regarder, pas comme un garçon de 14 ans, mais comme une fille de 14 ans. Nous devons nous regarder dans le miroir suffisamment et dire, mais quels sont les fruits que je porte? C'est biblique tout ce que je vous dis. Quels sont les fruits que je porte? Est-ce que je n'attriste pas le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a pas des choses? Qu'est-ce que c'est qui attriste le Saint-Esprit? Quand Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jugement, que toute amertume, toute colère, toute clameur, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Voilà, l'amertume, les clameurs, la colère, tous ces comportements charnels. Si vous êtes toujours dans cet état en colère, énervé, irrité, c'est que le fruit de l'esprit, il n'y est pas. Mais si c'est la dernière fois que vous le gérez, ça, Seigneur, moi je veux me repentir, vraiment. Beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte. C'est bien la repentance, la tristesse selon Dieu. Est-ce que c'est bien la tristesse selon Dieu? Comment vous le percevez, ça, la tristesse selon Dieu? C'est écrit dans 2 Corinthiens 7, on va le lire. Regardez, c'est beau la repentance. La repentance, ce n'est pas peur. C'est la conviction de péché. Comment vous voyez, vous, la conviction de péché? Comme un drame ou comme une bénédiction? Mais bien sûr, quand Dieu nous montre quelque chose, ce n'est pas pour nous écraser. Quand Dieu nous montre quelque chose, eh bien, c'est comme un abcès, il nous montre pour le régler. Il nous montre, c'est comme quand on montre une tache à quelqu'un, on dit « Ah, t'as une tache là sur le vêtement, oh, je vais l'enlever ». Voilà, c'est ça. 2 Corinthiens, chapitre 7, la tristesse selon Dieu, c'est la tristesse du monde, ah, ça c'est clair que ça c'est un problème, mais la tristesse selon Dieu, mais c'est une bénédiction. Si vous interprétez la tristesse selon Dieu comme un malheur, c'est que vous n'avez pas envie de vous convertir, eh bien ne vous convertissez pas, ne vous convertissez pas, vous n'êtes pas obligé de vous convertir, hein. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 6, on va lire 6 à 9. « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Comme quoi, voyez, par quelqu'un, vous pouvez être une bénédiction. Est-ce que vous aimeriez que Dieu parle comme ça de vous? Vous aimeriez que Dieu parle comme ça? Eh bien, si c'est un gars qui consolait, eh bien, c'est parce qu'il avait certainement beaucoup reçu de consolation. Et ça, c'est la palisse, c'est la palisse. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Verset 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé, selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde, elle produit la mort. Donc la tristesse selon Dieu, mais c'est une bénédiction. Je me rends compte que je suis double dans mes paroles. Je le disais en introduction, que ton oui soit oui, mais ça devrait régler. Mais je veux dire, ce n'est pas compliqué. Que ton oui soit un oui, que ton non soit non. Plutôt que de flirter avec la vérité, ce qui fait de nous un menteur et le père du mensonge. La tristesse selon Dieu, la vraie repentance, elle est le résultat d'une tristesse selon Dieu, pas des regrets. Oh, je regrette, je sais. Je sais combien de femmes m'ont dit à mon mari, monsieur, vous savez, il s'est repenti. Il s'est repenti de son comportement envers moi. J'ai dit, vous avez vérifié s'il s'est repenti ou s'il regrette? Ben, je ne sais pas. Mais vous allez vite le voir. Vous allez vite le voir. Vous allez vite le voir. Ce n'est même pas la peine d'en parler. La repentance se caractérise petit à petit, parce que je ne veux pas non plus mettre trop d'enseignements. La repentance, elle se caractérise par la soumission à Dieu. Une église, une assemblée, quelle que soit la dénomination, parce que n'importe quelle dénomination peut en arriver là. Une église qui veut être l'église, avec un grand T majuscule, celle que le Seigneur Jésus veut, parce qu'il la veut, et je peux vous dire qu'il est plus intéressé que nous, le Seigneur, à voir son église, la sienne, pas la mienne, pas la nôtre. Cette église dont Jésus a dit qu'il bâtirait, elle devrait s'écrier comme Saul, rempli de meurtres et de menaces, terrassé sur le chemin de Damas. La première parole qu'il a prononcée lorsque Dieu l'a arrêté, il n'a pas dit « Seigneur, t'es vivant, bénis-moi ». C'est ce qui se passe, je caricature. Mais normalement, il me semble que la véritable Église composée de chrétiens nés de nouveau, devrait poser la question « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Est-ce que sincèrement, je parle aux chrétiens, je sais qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui ne sont pas encore baptisées, qui ne sont pas encore passées par la repentance, par la conviction de péché. Bon, mais ça, c'est autre chose. Je m'adresse à ceux qui ont pris le baptême par immersion en ayant accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Si vous avez pris le baptême sans accepter Jésus-Christ comme sauveur, vous avez pris un bain, c'est tout. Et vous devez repasser par la croix. Faites-le, je vous le dis avec beaucoup d'affection. Si votre baptême était juste une adhésion à une église, ben repentez-vous vraiment. Dites, mais combien de fois ça est arrivé ça? Des gens qui sont venus nous voir, Monsieur Gou, en arrivant, ben, c'est arrivé, je ne sais pas combien de fois ici. Monsieur Gou, mais je ne suis pas converti. Je me rends compte dans cette assemblée, je ne suis pas passé par la conversion. Alors je leur dis, mais est-ce que quand même vous avez accepté Jésus comme sauveur? Oui, oui, alors on ne va pas rebaptiser tous ces gens-là. Mais il y en a qui n'avaient même pas accepté Jésus comme sauveur. Et c'est ça qui a fragilisé les églises. Parce qu'elles ont été composées de pierres mortes, non pas de pierres vivantes. Et c'est pour ça, c'est un devoir. Il y a plein de joie et plein de grâce dans le royaume de Dieu. Il y a plein de faveurs et il y a plein de bénédictions parce que Dieu est notre Père. Mais Dieu, notre Père, ça indique aussi des devoirs. Alors je m'adresse aux chrétiens déjà de cette assemblée, à ceux qui m'écoutent bien sûr. Est-ce que vous pouvez, devant Dieu, dire, faire cette prière, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que c'est important pour vous ou est-ce que vous dites, mais ça je l'ai déjà entendu, il se répète. Non, ne jouez pas avec ça. Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez ce matin prendre un engagement? Vous savez moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vois qu'il y a des nouveaux, c'est bien que vous le sachiez. Vous savez, je me suis toujours appliqué, j'ai été toujours sérieux dans mon ministère, toujours. Ça fait 36 ans que je suis pasteur. Franchement, j'ai compris l'importance de prêcher bien. Mais quand j'ai fait l'AVC, j'avais demandé quelques jours avant, Seigneur, brise-moi. Bon, je pensais que ça allait être, que ça allait, je sentais que ça allait venir. Bon, pas tant. Mais là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'enseigne l'Église. Enseigner, amener de la lumière, c'est bien. S'il n'y a pas la lumière dans une Église, ce n'est pas bon. Mais Dieu ne veut pas que nous amenions la lumière. Dieu veut que nous amenions la lumière et la vie. Et j'ai compris la différence entre apporter un sermon qui est super bien construit, qui est biblique, et apporter la pensée de Dieu. Et c'est ce qu'il m'a fallu pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'il y a au milieu de nous des chrétiens qui sont conscients que si nous voulons avoir une église qui est l'église du Seigneur, parce que je peux vous dire que toute église qui s'éloigne de la parole de Dieu n'est qu'une pseudo-église, quelle qu'elle soit, Paul parle de tous ces pasteurs qui ont fait naufrage. Que Dieu nous garde, parce que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, par rapport à la conscience. Et vous savez, quand on arrive à croire que tout va bien, comme dans l'église de l'Odyssée, et que le Seigneur est dehors à la porte, alors je veux dire quelque chose, ne répétez pas ça comme ça. Je sais que vous le ferez. Si Jésus n'est qu'à la porte, il peut encore interpeller, puisque dans le livre de l'Odyssée, dans l'église de l'Odyssée, il est à la porte et il parle à cette église. Mais je me demande si le Seigneur il est à la porte. Je ne parle pas de notre église. Parce que honnêtement, je sais, par les convictions de péché des derniers pécheurs, je sais que le Saint-Esprit est là. Parce que à quoi on reconnaît une église? À quoi on reconnaît la présence du Saint-Esprit? Aux convictions de péché. Puisque la première chose que Dieu fait dans une église, c'est que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra de péché. S'il n'y a pas de conviction de péché, mais soyons simples, s'il n'y a pas de conviction de péché, c'est qu'il n'y a pas beaucoup du Saint-Esprit. Oui ou non? C'est que le Seigneur, il est à la porte. Alors s'il est qu'à la porte, pardonne-nous Seigneur, pardonne-moi de parler comme ça. Dieu sait très bien ce que je suis en train de dire. Mais si le Seigneur n'est qu'à la porte, c'est un grand, grand danger, c'est une grande, grande offense. Mais on peut entendre quelqu'un qui tape derrière la porte. Vous le savez, quelqu'un peut taper chez vous, hein, c'est moi, j'arrive. Bon, on l'entend. C'est pas l'idéal pour une véritable communication, mais il y a une possibilité. Mais quand Jésus est à 300 mètres de la porte, là, ça commence à devenir très inquiétant. Et je sais que dans beaucoup de nos églises, le Seigneur, il n'est pas à la porte, il est très loin de la porte. Vous pouvez en être certain. S'il n'y a pas de conviction de péché dans une église, même s'il y a beaucoup d'activités, les activités ne sont pas synonymes de vie. La vie, c'est Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. Donc nous devons nous appliquer, comme je l'ai fait, parce que c'est que mon introduction, mais on aura l'occasion d'y revenir. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est d'accord avec la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. On l'a lu. Vous pourrez le relire, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je vous le dis solennellement, est-ce que tu fais la volonté du Père qui est dans les cieux? Mais oui, monsieur Gauche, je prêche l'évangile, j'impose, je prophétise. Oh, tu prophétises? Mais vous avez lu ce que vous avez lu? Mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prié pour les malades et ils ont été guéris. Ça ne vous a pas choqué ce texte? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je prêche l'évangile et je suis perdu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez lu comme moi? Mais c'est facile, je l'ai déjà expliqué ici, mais pour ceux qui ne l'ont pas compris, je vous donne un exemple. Je prêche l'évangile, je connais la parole, moi je peux prêcher. Mais je suis dans le péché. Je suis dans l'adultère, d'accord? J'ai une double vie. Vous me suivez? C'est une image. J'ai une double vie. Madame Dupont m'appelle. Monsieur Gau, venez. J'ai regardé sur l'annuaire, j'ai trouvé votre nom comme pasteur. Venez prier pour ma fille, elle est malade. Venez prier, s'il vous plaît. Venez prier pour ma fille, elle est malade. Je ne sais pas ce qu'elle a. S'il vous plaît, je crois qu'on peut demander à Jésus sa grâce. Bien sûr, je fais mon job de pasteur et je vais prier pour la petite de Madame Dupont. Je prie, et bien sûr, je prie, je fais mon travail de pasteur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu veut faire, va faire, peut faire? Eh bien, il va honorer la foi de cette femme déjà qui crie. Et son nom, parce que j'ai prié au nom de Jésus. Mais moi, je suis en vrac. Dieu a honoré son nom. Est-ce que vous me suivez? C'est archi important, mes frères et sœurs. Parce qu'il ne faut pas se gargariser, dire « Mais moi, je fais ça dans l'église, j'ai telle activité. » Non, Jésus est catégorique, ça ne peut pas être plus clair. On devrait peut-être tous le comprendre, puisque ça fait partie du premier sermon de Jésus au début de l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je suis en communion avec Dieu. Je suis en communion avec Dieu quand je mets en pratique sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a une question à poser? Je le fais rarement, mais c'est tellement important. C'est tellement important, mes frères et sœurs, que nous comprenions que le Seigneur, il n'attend pas des paroles. Dieu veut des actes. Et je les ai marqués, ces textes. Pour ceux qui prennent des notes, je vous ai donné Matthieu 7, 21 à 27. Prenez les textes. Matthieu 23, 3. Luc 6, 46 à 48. Luc 11, 28. Bon, Jacques 1, 22, on l'a lu. 1 Jean 2, 3. Et 1 Jean 3, 18. Je parle vite, c'est pas grave. Eh bien, je vous les redonnerai après. Donc, je termine. Parce que c'est un sujet qui va nous préoccuper des mois normalement, à moins que le Saint-Esprit nous oriente différemment. Mais je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut tout reprendre à zéro. Vraiment. Vous êtes d'accord qu'on reparte sur des bases où on explique vraiment ce qu'est l'Église? Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut partir sur la saine doctrine. La saine doctrine, voyez la palisse, la saine doctrine ne peut qu'engendrer un comportement sain. Vous me suivez? Une doctrine saine, sainte, qui engendrerait un comportement malsain, c'est que je ne la mets pas en pratique. Je termine vraiment. Ce que Dieu veut, c'est la vérité. Ce qui s'est passé au fil des siècles, au fil des dernières décennies, je vous l'explique là, j'y reviendrai plus avec les responsables parce que c'est un peu plus cossu, mais je vous l'expliquerai. C'est qu'au nom de l'amour, au nom de l'unité, on a tout accepté. Tout. Et ça a été le problème de toutes les églises. L'amour et l'unité marchent avec la vérité. C'est la vérité que nous devons honorer, parce que la vérité, c'est Jésus lui-même. Et au nom de l'amour, on accepte plein de trucs. C'est de l'amour sentimental. Au nom de l'amour, on est tolérant pour plein de trucs. Au nom de l'unité, on est capable de faire n'importe quoi avec des gens qui sont complètement différents de nous et qui vivent dans des abominations. Et c'est ce qui se passe. Et vous comprenez bien que nous ne devons pas, comme dit Paul, retenir la vérité captive. Il faut que Jésus puisse passer dans les rangs et manifester sa puissance. Il faut que ce matin, si un pécheur, il puisse se frapper la poitrine et dire « Mais je suis perdu, il a raison, ma religion ne me sauvera pas. Ce n'est pas mon baptême qui va me sauver. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est la repentance qui sauve. » Et nous, on a fait croire aux gens que c'était le baptême qui sauvait. Je reviendrai là-dessus. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que nous devons absolument comprendre que Dieu n'attend pas des paroles. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Dieu attend des actes. Cette semaine, en priant, je pensais à... Il y a des mots qu'on n'utilise pas parce que des fois, on n'ose pas les utiliser. Mais on peut les expliquer. Vous savez ce que c'est l'amour ou l'engagement platonique. Vous savez, l'amour platonique, on l'entend des fois ça. Cet homme, il a une passion pour sa femme, mais il n'y a aucun acte. Il n'y a aucun fait. C'est ça l'amour platonique. Je t'aime, mais derrière, il n'y a rien. Ça s'appelle l'amour platonique. Et Dieu ne veut pas d'engagement platonique. D'engagement, Seigneur, tu vois, je te servirai. Surtout à la fin d'une réunion où on fait un appel et les gens sont souvent un petit peu plus saisis qu'à la maison. Ah, si, il a raison, mais il a raison, tout ce qu'il dit, mais c'est vrai. L'amour platonique ou l'engagement platonique, c'est vrai, il y a une passion, mais il n'y a pas de suite. Il y a une femme qui est aimée platoniquement par son mari, je la plains. J'espère qu'il n'y en a pas. C'est ce que M. de Dieu répétait l'autre jour dans l'introduction quand il a dit, mais quand Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de précepte humain. Mes frères et sœurs, je termine vraiment. Dieu ne veut pas des paroles. Nous ne serons pas jugés sur nos paroles. Je peux vous le démontrer, je dois vous le démontrer, et je le ferai. Nous serons jugés sur nos actes. Le jugement, il sera lié à nos actes, pas à nos paroles. On l'a lu, c'est clair dans le sermon sur la montagne. C'est pour ça que nous devons nous poser les bonnes questions. Où j'en suis? Jésus l'a dit, vous êtes heureux. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Virgule. Il a ajouté quelque chose derrière. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, virgule, pourvu que vous les pratiquiez. Mes frères et sœurs, je termine, vraiment.
C'est un sujet, vous comprenez bien, qui me préoccupe. Vous ne vous imaginez pas ce que je suis en train de vivre. Et je vous remercie une fois de plus parce que vous m'aidez vraiment. C'est grâce à vous que je vis ça. Grâce à votre faveur et vos prières. Je ne considère pas que le courage que j'ai, il vient de moi. Je pense qu'il vient du Seigneur au travers de vous aussi. Comme on l'a lu tout à l'heure, hein, qu'ils ont été consolés par l'arrivée de Tite, et bien moi je suis consolé par votre service aussi. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas des paroles et des engagements platoniques. Dieu veut des actes. Alléluia. Nous devons nous dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu veut bâtir son Église. Je bâtirai mon Église. Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous? Très solennellement, c'est pas du truc humain, c'est spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez au Seigneur, dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit d'une manière joyeuse, c'est une joie d'être choisi par Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut terminer ce culte en disant, Seigneur, quelle joie de travailler à l'Église, à ton Église.